Chapitre 16. L'enfant sans père, l'enlèvement, le village d'Aramon. Le jour de douleur, le jour de honte approchait. André, malgré les visites de plus en plus fréquentes du bon docteur Louis, malgré les soins affectueux et les consolations de Philippe, s'assombrissait d'heure en heure comme les condamnés que leur dernière heure menace. Ce frère malheureux trouvait quelquefois André rêveuse et frémissante. Ses yeux étaient secs pendant des journées entières, ne laissait échapper aucune parole. Puis, tout à coup, se levant, elle faisait deux ou trois tours précipités dans sa chambre, essayant, comme Didon, de s'élancer hors d'elle-même, c'est-à-dire hors de la douleur qui la tuait. Un soir enfin, la voyant plus pâle, plus inquiète, plus nerveuse que de coutume, Philippe envoya chercher le docteur pour qu'il arrivât dans la nuit même. C'était le 29 novembre. Philippe avait eu l'art de prolonger fort tard la veillée d'André. Il avait abordé avec elle les sujets de conversation les plus tristes, les plus intimes, ceux même que la jeune fille redoutait comme le blessé redoute les approches d'une main brutale et lourde pour sa blessure. Il était assis auprès du feu. La servante, en allant à Versailles chercher le docteur, avait oublié de fermer les persiennes, en sorte que le reflet de la lampe, celui du feu même, éclairait doucement le tapis de neige jeté sur le sable du jardin par les premiers froids de l'hiver. Philippe laissa venir le moment où l'esprit d'André commençait à se tranquilliser. Puis, sans préambule, « Chère sœur, dit-il, avez-vous enfin pris votre résolution ?»« Quel sujet ?» répondit André avec un douloureux soupir. « Au sujet de votre enfant, ma sœur. » André tressaillit. « Le moment approche, » continua Philippe. « Mon Dieu, je ne serais pas surpris que demain, aujourd'hui même, chère sœur. » André devint si pâle que Philippe, effrayé, lui prit et lui baisa la main. André se remit aussitôt. « Mon frère, dit-elle, je n'aurai pas avec vous de ces hypocrisies qui déshonorent les âmes vulgaires. Le préjugé du bien est chez moi confondu avec le préjugé du mal. Ce qui est mal, je ne le connais plus depuis que je me défie de ce qui est bien. Aussi, ne me jugez pas plus rigoureusement qu'on ne juge une folle, à moins que vous ne préfériez prendre au sérieux la philosophie que je vais vous esquisser et qui, je vous le jure, est l'expression parfaite, unique de mes sentiments comme le résumé de mes sensations. » « Quoi que vous disiez, André, quoi que vous fassiez, vous serez toujours pour moi la plus chérie, la plus respectée des femmes. »« Merci, mon seul ami. J'ose dire que je ne suis pas indigne de ce que vous me promettez. Je suis mère, Philippe, mais Dieu a voulu, je le crois du moins, ajouta-t-elle en rougissant, que la maternité fût chez la créature un état analogue à celui de la fructification chez la plante. Le fruit ne vient qu'après la fleur. » Pendant la floraison, la plante s'est préparée, transformée, car la floraison, à mon sens, c'est l'amour. Vous avez raison, André. Moi, reprit vivement la jeune fille, moi, je n'ai connu ni préparation, ni transformation. Moi, je suis une anomalie. Moi, je n'ai pas aimé, je n'ai pas désiré. Moi, j'ai l'esprit et le cœur aussi vierges que le corps. Et cependant, triste prodige, ce que je n'ai pas désiré, ce que je n'ai pas rêvé, même Dieu me l'envoie, lui qui n'a jamais donné de fruits à l'arbre créé pour être stérile. Où sont chez moi les aptitudes, les instincts? Où sont les ressources mêmes? La mère qui souffre les douleurs de l'enfantement connaît et apprécie son sort. Moi, je ne sais rien, moi je tremble de pensée, moi je veille à ce dernier jour comme si j'allais à l'échafaud. Philippe, je suis maudite. André, ma sœur, Philippe, reprit-elle avec une véhémence inexprimable, ne songe pas bien que je hais cet enfant. Oui, je le hais, je me rappellerai toute ma vie, si je vis, Philippe, le jour où pour la première fois s'éveilla dans mon flanc cet ennemi mortel que je porte. Je frissonne encore quand je me souviens de ce tressaillement si doux au maire, de cette créature innocente alluma dans mon sang une fièvre de colère et fit monter le blasphème à mes lèvres jusque-là si pures. Philippe, je suis une mauvaise mère. Philippe, je suis maudite. Au nom du ciel, bon André, calme-toi. N'égare pas ton cœur et ton esprit. Cet enfant, c'est ta vie et le sang de tes entrailles. Cet enfant, je l'aime car il vient de toi. Tu l'aimes, s'écria-t-elle, furieuse et livide. Tu oses me dire à moi que tu aimes mon déshonneur et le tien. Tu oses me déclarer que tu aimes ce souvenir d'un crime, cette représentation d'un lâche criminel. Eh bien, Philippe, je te l'ai dit, je ne suis pas lâche, moi, je ne suis pas fausse. Je hais l'enfant, parce qu'il n'est pas mon enfant et que je ne l'ai pas appelé. Je l'exècre parce qu'il ressemblera peut-être à son père. Son père! Oh, je mourrai un jour en prononçant cet horrible mot. Mon Dieu, dit-elle en se jetant à genoux sur le parquet, je ne peux tuer cet enfant à sa naissance. C'est vous qui l'avez animé. Je n'ai pu me tuer moi-même tant que je le portais, car vous avez proscrit le suicide aussi bien que le meurtre. Mais je vous en prie, je vous en supplie, je vous en conjure, si vous êtes juste, mon Dieu, si vous avez le souci des misères de ce monde, et si vous n'avez pas décrété que je mourrais de désespoir après avoir vécu d'opprobre et de larmes, mon Dieu, reprenez cet enfant, mon Dieu, tuez cet enfant, mon Dieu, délivrez-moi, vengez-moi! Effrayante de colère et sublime d'action, elle frappait son front sur le chambranle de la porte, malgré les efforts de Philippe qui l'étreignait dans ses bras. Soudain, la porte s'ouvrit. La servante entra, conduisant le docteur qui, du premier regard, devina toute la scène. « Madame, dit-il, avec ce calme du médecin qui impose toujours aux uns la contrainte, aux autres la soumission, madame, ne vous exagérez pas les douleurs de ce travail qui ne peut tarder. Vous, dit-il à la servante, préparez tout ce que je vous ai dit en route. Vous, dit-il à Philippe, soyez plus raisonnable que madame et, au lieu de partager ses craintes ou ses faiblesses, joignez vos exhortations aux miennes. » André se releva presque honteuse. Philippe l'assit sur un fauteuil. On vit alors la malade rougir et se renverser avec une contraction douloureuse. Ses mains crispées s'accrochèrent aux franges du fauteuil et la première plainte s'exhala des lèvres violacées. Cette douleur, cette chute, cette colère ont avancé la crise, dit le docteur. Retirez-vous dans votre chambre, monsieur de Tavernet, et du courage. Philippe, le cœur gonflé, se précipita vers André, qui avait entendu, qui palpitait, et qui, se soulevant malgré la douleur, suspendit ses deux bras au cou de son frère. Elle l'étreignit énergiquement, colla ses lèvres sur sa joue froide, et lui dit tout bas « Adieu, adieu, adieu !»« Docteur, docteur !» s'écria Philippe au désespoir. « Entendez-vous ?» Louis sépara les deux infortunés avec une douce violence, replaça André sur le fauteuil, conduisit Philippe dans la chambre dont il tira les verrous qui gardaient la chambre d'André. Puis, fermant les rideaux, les portes, il ensevelit ainsi, en la concentrant dans cette seule chambre, toute la scène qui allait se passer du médecin à la femme, de Dieu à tous les deux. À 3 heures du matin, le docteur ouvrit la porte derrière laquelle pleurait et suppliait Philippe. « Votre sœur a donné le jour à un fils, dit-il. » Philippe joignit les mains. « N'entrez pas, dit le médecin, elle dort. » « Elle dort, docteur, est-ce bien vrai qu'elle dort ?»« S'il en était autrement, monsieur, je vous le dirais. Votre sœur a donné le jour à un fils, mais ce fils a perdu sa mère. Voyez, d'ailleurs. » Philippe avança la tête. « Écoutez sa respiration. » Oh, « oui, oui, » murmura Philippe en embrassant le médecin. « Maintenant, vous savez que nous avons retenu une nourrice. J'avais, en passant au point du jour où demeure cette femme, prévenue pour qu'elle se tînt prête. Mais c'est vous seul qui pouvez l'amener ici. C'est vous seul qu'il faut qu'on voie. Profitez donc du sommeil de la malade et partez avec la voiture qui m'a amené. Mais vous, docteur, vous... moi, j'ai place royale, un malade à peu près désespéré, une pleurésie. Je veux achever la nuit près de son lit afin de surveiller l'emploi des remèdes et leurs résultats. Le froid, docteur, j'ai mon manteau. La ville est peu sûre. 20 fois depuis 20 ans, on m'a arrêté la nuit. J'ai toujours répondu, mon ami, je suis médecin, je me rends chez un malade. Voulez-vous mon manteau? Prenez-le, mais ne me tuez pas, car sans moi, mon malade mourrait. Remarquez bien, monsieur, ce manteau a 20 ans de service, les voleurs me l'ont toujours laissé. Bon docteur, demain, n'est-ce pas? Demain, à 8 heures, je serai ici. Adieu. Le docteur prescrivit à la servante quelques soins et beaucoup d'assiduité près de la malade. Il voulait que l'enfant fût placé près de la mère. Philippe le supplia de l'éloigner, se rappelant encore les dernières manifestations de sa sœur. Louis installa donc lui-même cet enfant dans la chambre de la servante, puis s'esquiva par la rue Montorgueil, tandis que le fiacre emmenait Philippe du côté du Roule. La servante s'endormit dans le fauteuil près de sa maîtresse. Dans les intervalles de ce sommeil réparateur qui suit les grandes fatigues, l'esprit semble avoir conquis une double puissance, la faculté d'apprécier le bien-être de la situation et la faculté de veiller sur le corps dont la prostration est semblable à la mort. André, revenu au sentiment de la vie, ouvrit les yeux et vit à ses côtés la servante qui dormait. Elle entendit le pétillement joyeux de l'âtre et admira ce silence ouaté de la chambre où tout reposait comme elle. Cette intelligence n'était pas toute la veille, ce n'était pas non plus tout le sommeil. André prenait plaisir à prolonger cet état d'indécision, de molle somnolence. Elle laissait les idées renaître les unes après les autres dans son cerveau fatigué, comme si elle eût craint l'invasion subite de sa raison tout entière. Soudain, un vagissement lointain, faible, perceptible à peine, arriva jusqu'à son oreille à travers l'épaisseur de la cloison. Ce bruit rendit à André les tressaillements qu'il avait tant fait souffrir. Elle lui rendit ce mouvement haineux qui, depuis quelques mois, a troublé son innocence et sa bonté comme le choc trouble un breuvage dans les vases où sommeille la lie. De ce moment, il n'y eut plus pour André de sommeil ni de repos. Elle se souvenait, elle haïssait. Mais la force des sensations est d'ordinaire en raison des forces corporelles. André ne trouva plus cette vigueur qu'elle avait manifestée dans sa scène du soir avec Philippe. Le cri de l'enfant lui frappa le cerveau, comme une douleur d'abord, puis comme une gêne. Elle en vint à se demander si Philippe, en éloignant cet enfant avec sa délicatesse accoutumée, n'avait pas été l'exécuteur d'une volonté un peu cruelle. La pensée du mal qu'on souhaite à une créature ne répugne jamais autant que le spectacle de ce mal. André, qui exécrait cet enfant invisible, cette idéalité, André, qui désirait sa mort, fut blessé d'entendre crier le malheureux. « Il souffre, pensa-t-elle. » Et puis aussitôt elle se répondit « Mais pourquoi m'intéresserais-je à ces souffrances, moi, la plus infortunée des créatures vivantes ?» L'enfant poussa un nouveau cri, plus articulé, plus douloureux. Alors André s'aperçut que cette voix semblait éveiller en elle une voix inquiète et sentit son cœur tiré comme par un lien invisible vers l'être abandonné qui gémissait. Ce qu'avait pressenti la jeune fille se réalisait. La nature avait accompli l'une de ses préparations. La douleur physique, cette puissante attache, venait de souder le cœur de la mère au moindre mouvement de son enfant. « Il ne faut pas, pensa André, que ce pauvre orphelin crie en ce moment, il crie vengeance contre moi et vers le ciel. Dieu a mis dans ces petites créatures à peine écloses la plus éloquente des voix. On peut les tuer, c'est-à-dire les exempter de la souffrance, on n'a pas le droit de leur infliger une torture. Et si l'on en avait le droit, Dieu ne l'aurait pas permis de se plaindre ainsi. » André souleva la tête et voulut appeler sa servante, mais sa faible voix ne put réveiller la robuste paysanne. Déjà, l'enfant ne gémissait plus. « Sans doute, pensa André, la nourrice est arrivée, car j'entends le bruit de la première porte. Oui, l'on marche dans la chambre voisine, et la petite créature ne se plaint plus. Une protection étrangère s'étend déjà sur elle et rassure son informe intelligence. Oh, celle-là est donc la mère qui prend soin de l'enfant. Pour quelques écus, l'enfant sorti de mes entrailles trouvera une mère. » Et plus tard, passant près de moi qui ai tant souffert, près de moi dont la vie lui cause la vie, cet enfant ne me regardera pas et dira « Ma mère a une autre mercenaire plus généreuse de son amour intéressé que moi dans mon juste sentiment. Cela ne sera pas. J'ai souffert, j'ai acheté le droit de regarder cette créature en face, j'ai le droit de la forcer à m'aimer pour mes soins, à me respecter pour mon sacrifice et mes douleurs. » Elle fit un mouvement plus prononcé, rassembla ses forces et appela « Marguerite ! Marguerite !» La servante s'éveilla lourdement et sans bouger de son fauteuil où la clouait un engourdissement presque léthargique. M'entendez-vous? Dit André. Oui, madame, oui, dit Marguerite qui venait de comprendre, et elle s'approcha du lit. Madame veut boire? Non. Madame veut savoir l'heure, peut-être? Non, non. Et ses yeux ne quittaient point la porte de la chambre voisine. Hein, je comprends, madame veut savoir si monsieur son frère est revenu. On voyait André lutter contre son désir avec toute la faiblesse d'une âme orgueilleuse, avec toute l'énergie d'un cœur chaud et généreux. Je veux, articula-t-elle enfin, je veux. Ouvrez donc cette porte, Marguerite. Oui, madame, ah, comme il fait froid par là. Le vent, madame, quel vent! Le vent s'engouffra en effet dans la chambre même d'André et secoua la flamme des bougies et de la veilleuse. C'est la nourrice qui aura laissé une porte ou une fenêtre ouverte. Voyez, Marguerite, voyez, cet enfant doit avoir froid. Marguerite se dirigea vers la chambre voisine. Je veux le couvrir, madame, dit-elle. Non, non, murmura André d'une voix brève et saccadée. Apportez-le-moi. Marguerite s'arrêta au milieu de la chambre. « Madame, dit-elle doucement, Monsieur Philippe avait bien recommandé qu'on laissât l'enfant là-bas, de peur sans doute d'incommoder madame ou de lui causer une émotion. « Apportez-moi mon enfant !» s'écria la jeune mère avec une explosion qui dut briser son cœur, car de ses yeux, restés secs au milieu même des souffrances, jaillirent des larmes auxquelles durent sourire dans le ciel les bons anges protecteurs des petits-enfants. Marguerite s'élança dans la chambre, André sur son séant, cachait son visage dans ses mains. La servante rentra aussitôt, la stupéfaction sur le visage. « Eh bien, dit André, eh bien, madame, il est donc venu quelqu'un? Comment quelqu'un? Qui? Madame, l'enfant n'est plus là. J'ai entendu en effet du bruit tout à l'heure, dit André. Des pas, la nourrice sera venue pendant que vous dormiez. Elle n'aura pas voulu vous réveiller. Mais mon frère, où est-il? Voyez dans sa chambre. Marguerite courut à la chambre de Philippe. Personne. « C'est étrange, dit André avec un battement de cœur. Mon frère serait-il déjà ressorti sans me voir ?»« Ah, madame !» s'écria tout à coup la servante. « Qu'y a-t-il ? La porte de la rue vient de s'ouvrir. »« Voyez, voyez ! Ah, c'est monsieur Philippe qui revient. Entrez, monsieur, entrez !» Philippe arrivait en effet. Derrière lui, une paysanne enveloppée d'une grossière mante de laine rayée faisait à la maison ce sourire bienveillant dont le mercenaire salue tout nouveau patronage. « ma sœur, me voici !» dit Philippe en pénétrant dans la chambre. « Ah, bon frère, que de peine, que de chagrin que je cause. Ah, voici la nourrice, je craignais tant qu'elle ne fût partie. Mais partie, elle arrive. » Elle revient, veux-tu dire? Non, je l'ai bien entendue tout à l'heure, si doucement qu'elle marcha. Je ne sais ce que tu veux dire, ma sœur, personne. Oh, je te remercie, Philippe, dit André, en l'attirant près d'elle et en accentuant chacune de ses paroles. Je te remercie d'avoir si bien auguré de moi que tu n'aies pas voulu emporter cet enfant sans que je l'eusse vu, embrassé. Philippe, tu connaissais bien mon cœur, oui, oui, sois tranquille, j'aimerais mon enfant. Philippe saisit et couvrit de baisers les mains d'André. « Dis à nourrice de me le rendre, » ajouta la jeune mère. « Mais, monsieur, » dit la servante, « vous savez bien que cet enfant n'est plus là. »« Quoi, que dites-vous ? » répliqua Philippe. André regarda son frère avec des yeux effarés. Le jeune homme courut vers le lit de la servante. Il chercha et, ne trouvant rien, poussa un cri terrible. André suivait ses mouvements dans la glace. Elle le vit revenir, pâle, les bras inertes. Elle comprit une partie de la vérité. Et répondant comme un écho par un soupir au cri de son frère, elle se laissa tomber sans connaissance sur l'oreiller. Philippe ne s'attendait ni à ce malheur nouveau, ni à cette douleur immense. Il rassembla toute son énergie et, à force de caresses, de consolations, de larmes, il rappela André à la vie. « Mon enfant, murmurait-il, mon enfant. Sauvons la mère, se dit Philippe. Ma bonne sœur, nous sommes tous fous, à s'il paraît, et nous oublions que ce bon docteur a emporté l'enfant avec lui. » « Le docteur !» cria André, avec de la souffrance sans doute, mais avec de la joie, de l'espoir. « Mais oui, ah, mais on perd la tête ici. Philippe, tu me jures !» Chère sœur, tu n'es pas plus raisonnable que moi. Comment veux-tu que cet enfant ait pu disparaître? Et il affecta un rire qui gagna nourrice et servante. André se ranima. Cependant, j'ai entendu, dit-elle. Quoi? Des pas? Philippe frissonna. Impossible, tu dormais. Non, non, j'étais bien éveillé, j'ai entendu. Eh bien, tu as entendu ce bon docteur qui est revenu derrière moi parce qu'il craignait pour la santé de cet enfant, aura voulu l'emporter. Il m'en avait parlé, d'ailleurs. Tu me rassures. Mais comment ne te rassurerais-je pas? C'est si simple. Mais alors, moi, objecta la nourrice, moi, que fais-je ici? Ah, c'est juste, le docteur vous attend chez vous. Oh! Mais chez lui, alors, voilà, cette Marguerite dormait si fort qu'elle n'aura rien entendu de ce que le docteur disait ou que le docteur n'aura rien voulu dire. André retomba plus calme après cette terrible secousse. Philippe congédia la nourrice et consigna la servante. Puis, prenant une lampe, il examina soigneusement la porte voisine, trouva une porte du jardin ouverte, vit des empreintes de pas sur la neige et suivit ces empreintes jusqu'à la porte du jardin où elles aboutissaient. « Des pas d'homme ! » s'écria-t-il. « L'enfant a été enlevé ! Malheur ! Malheur !» Ses pas imprimés sur la neige étaient ceux de Gilbert, qui, depuis sa dernière entrevue avec Balsamo, accomplissait sa tâche de surveillant et préparait sa vengeance. Rien ne lui avait coûté. Il avait réussi, à force de douces paroles et de petites complaisances, à se faire accepter, chérir même par la femme de Rousseau. Le moyen était simple. Sur les 30 sous par jour que Rousseau allouait à son copiste, le sobre Gilbert prélevait 3 fois par semaine 1 livre qu'il employait à l'achat d'un petit présent destiné à Thérèse. C'était quelquefois un ruban pour ses bonnets, quelquefois une friandise ou une bouteille de vin de liqueur. La bonne dame, sensible à tout ce qui flattait ses goûts ou son petit orgueil, se fut au besoin contentée des exclamations que Gilbert poussait à table pour louer le talent culinaire de la maîtresse de maison. Car le philosophe genevois avait réussi à faire admettre le jeune protégé à sa table, et depuis les 2 derniers mois, Gilbert, ainsi favorisé, s'était amassé 2 louis à son trésor, à lui qui dormait sous la paillasse à côté des 20 000 livres de Balsamo. Mais quelle existence, quelle fixité dans la tenue de la conduite et de la volonté! Levé au jour, Gilbert commençait par examiner de son œil infaillible la position d'André pour reconnaître le moindre changement qui pourrait s'être introduit dans l'existence si sombre et si régulière de la recluse. Alors rien n'échappait à son regard, ni le sable du jardin sur lequel la vue perçante mesurait les empreintes du pied d'André, ni le pli des rideaux, plus ou moins hermétiquement fermés, et dont l'entrebâillement était pour Gilbert un indice certain de l'humeur de sa maîtresse, car en ces jours de marasme, André se refusait même la lumière du ciel. De cette façon, Gilbert savait ce qui se passait dans l'âme et ce qui se passait dans la maison. Il avait également trouvé moyen d'interpréter toutes les démarches de Philippe. En calculant, comme il savait le faire, il ne se trompait ni sur l'intention du départ, ni sur le résultat au retour. Il poussa même la minutie jusqu'à suivre Philippe un soir qu'il est à Versailles, trouver le docteur Louis. Cette visite à Versailles avait bien un peu troublé les idées du surveillant, mais quand il vit à 2 jours de là le docteur se glisser furtivement dans le jardin de la rue Coqueron, il comprit ce qui avait été un mystère l'avant-veille. Gilbert savait les dates et n'ignorait pas que le moment approchait de réaliser toutes ses espérances. Il avait pris autant de précautions qu'il en faut pour assurer le succès d'une entreprise hérissée de difficultés. Voici comment son plan fut combiné. Les 2 louis lui servirent à louer dans le faubourg Saint-Denis un cabriolet avec 2 chevaux. Cette voiture devait être à ses ordres le jour où on la requerrait. Gilbert avait, en outre, exploré les environs de Paris dans un congé de 3 ou 4 jours qu'il avait pris. Pendant ce congé, il s'était rendu dans une petite ville du Soissonnais, située à 18 lieues de Paris et entourée d'une immense forêt. Cette petite ville se nommait Villers-Cotterêts. Une fois arrivé dans cette petite ville, il s'était rendu tout droit chez l'unique tabellion de l'endroit qui s'appelait Maître Niquet. Gilbert s'était présenté au dit Abélion comme le fils de l'intendant d'un grand seigneur. Ce grand seigneur, voulant du bien à l'enfant d'une de ses paysannes, avait chargé Gilbert de trouver une nourrice à cet enfant. Selon toute probabilité, la munificence du grand seigneur ne se bornerait point au mois de nourrice, et il déposerait en outre entre les mains de maître Niquet une certaine somme pour l'enfant. Alors maître Niquet, qui était possesseur de 3 beaux garçons, lui avait indiqué dans ce petit village nommé Aramon, situé à 1 lieue de Villers-Cotterêts, la fille de la nourrice de ses 3 fils, laquelle, après s'être mariée légitimement en son étude, continuait le métier de madame sa mère. Cette brave femme s'appelait Madeleine Pitou et jouissait d'un fils de 4 ans, lequel présentait tous les symptômes d'une bonne santé. Elle venait en outre d'accoucher à nouveau et par conséquent se trouvait à la disposition de Gilbert le jour où il lui plairait d'apporter ou d'envoyer son nourrisson. Toutes ces dispositions prises, Gilbert, toujours exact, était revenu à Paris 2 heures avant l'expiration du congé demandé. Maintenant, on nous demandera pourquoi Gilbert avait choisi la petite ville de Villers-Cotterêts préférablement à toute autre. En cette circonstance, comme en beaucoup d'autres, Gilbert avait subi l'influence de Rousseau. Rousseau avait un jour nommé la forêt de Villers-Cotterêts pour la plus riche en végétation qui exista, et dans cette forêt il avait cité 3 ou 4 villages cachés comme des nids au plus profond de la feuillée. Or, il était impossible qu'on allât découvrir l'enfant de Gilbert dans un de ces villages. Aramon surtout avait frappé Rousseau, si bien que Rousseau le misanthrope, Rousseau le solitaire, Rousseau l'ermite répétait à chaque instant « Aramon est le bout du monde, Aramon c'est le désert, on peut vivre et mourir là comme l'oiseau, sur la branche quand il vit, sous la feuille quand il meurt. » Gilbert avait encore entendu le philosophe raconter les détails d'un intérieur de chaumière et rendre avec ses traits de feu dont il animait la nature, depuis le sourire jusqu'au bêlement de la chèvre, depuis l'odeur appétissante de la grossière soupe aux choux jusqu'au parfum des mûriers sauvages et des bruyères violacées. « J'irai là, s'était dit Gilbert, mon enfant grandira sous les ombrages où le maître a exhalé des souhaits et des soupirs. » Pour Gilbert, une fantaisie était une règle invariable, surtout quand cette fantaisie se présentait avec des apparences de nécessité morale. Sa joie fut donc grande quand maître Niquet, allant au-devant de ses désirs, lui nomma Aramon comme le village qui convenait parfaitement à ses intentions. De retour à Paris, Gilbert s'était préoccupé du cabriolet. Le cabriolet n'était pas beau, mais il était solide, c'était tout ce qu'il fallait. Les chevaux étaient des percherons trapus, le postillon un lourdeau d'écurie, mais ce qui importait à Gilbert, c'était d'arriver au but et surtout de n'éveiller aucune curiosité. Sa fable n'avait d'ailleurs inspiré aucune défiance à maître Niquet. Il était d'assez bonne mine avec ses habits neufs pour ressembler à un fils d'intendant de bonne maison ou à un valet de chambre déguisé de duc et pair. Son ouverture n'en inspira pas avantage au conducteur, c'était le temps des confidences de peuple à gentilhomme, on recevait dans ce temps-là l'argent avec une certaine reconnaissance et sans prendre d'informations. D'ailleurs, 2 louis en valaient 4 à cette époque et 4 louis, de nos jours, sont toujours bons à prendre. Le voiturier s'engagea donc, pourvu qu'il fût prévenu 2 heures à l'avance, à mettre sa voiture à la disposition de Gilbert. Cette entreprise avait pour le jeune homme tous les attraits que l'imagination des poètes et l'imagination des philosophes, de fées vêtues bien différemment, prêtent aux belles choses et aux bonnes résolutions. Soustraire l'enfant à une mère cruelle, c'est-à-dire semer la honte et le deuil dans le camp des ennemis, puis, changeant de visage, entrer dans une chaumière chez des villageois vertueux comme les Pins Rousseau et déposer sur un berceau d'enfant une grosse somme, être regardé comme un dieu tutélaire par ces pauvres gens, passer pour un grand personnage, voilà plus qu'il n'en fallait pour satisfaire l'orgueil, le ressentiment, l'amour pour le prochain, la haine pour les ennemis. Le jour fatal arriva enfin. Il suivait 10 autres jours que Gilbert avait passés dans les angoisses, 10 nuits qu'il avait passées dans l'insomnie. Malgré la rigueur du froid, il couchait la fenêtre ouverte, et chaque mouvement d'André ou de Philippe correspondait à son oreille, comme à la sonnette, la main qui tire le fil. Il vit ce jour-là Philippe et André causer ensemble près de la cheminée. Il avait vu la servante partir précipitamment pour Versailles en oubliant de fermer les persiennes. Il courut aussitôt prévenir son voiturier, resta devant l'écurie pendant tout le temps qu'on attela, et mordant les poings et crispant ses pieds sur le pavé pour comprimer son impatience. Enfin, le postillon monta sur son cheval, et Gilbert, dans le cabriolet qu'on fit arrêter au coin d'une petite rue déserte, aux environs de la halle. Puis il revint chez Rousseau, écrivit une lettre d'adieu au bon philosophe, de remerciement à Thérèse, annonçant qu'un petit héritage l'appelait dans le midi, qu'il reviendrait, le tout sans indication précise. Puis, son argent dans ses poches, un long couteau dans sa manche, il allait se glisser le long du tuyau dans le jardin lorsqu'une idée l'arrêta. La neige. Gilbert, absorbé depuis 3 jours, n'avait pas pensé à cela. Sur la neige, on verrait ses traces aboutissant au mur de la maison de Rousseau. Nul doute que Philippe et André ne fassent faire des recherches et que, la disparition de Gilbert coïncidant avec l'enlèvement, tout le secret ne se découvrit. Il fallait donc de toute nécessité faire le tour par la rue Quéron, entrer par la petite porte du jardin, pour laquelle, depuis un mois, Gilbert s'était muni d'un passe-partout, porte de laquelle partait un petit sentier battu où ses pieds, par conséquent, ne laisseraient pas de traces. Il ne perdit pas un moment et arriva juste à l'heure où le fiacre qui amenait le docteur Louis stationnait devant l'entrée principale du petit hôtel. Gilbert ouvrit avec précaution la porte, ne vit personne et s'alla cacher à l'angle du pavillon près de la serre. Ce fut une terrible nuit. Il put entendre tout. Gémissements, cris arrachés par la torture, il entendit jusqu'au premier vagissement du fils qui lui était né. Cependant, appuyé sur la pierre nue, il recevait, sans la sentir, toute la neige qui tombait drue et solide du ciel noir. Son cœur battait sur le manche de ce couteau qu'il serrait désespérément contre sa poitrine. Son œil fixe avait la couleur du sang, la lumière du feu. Enfin, le docteur sortit. Enfin, Philippe échangea les derniers mots avec le docteur. Alors Gilbert s'approcha de la persienne, marquant sa trace sur le tapis de neige qui craquait sous ses pieds jusqu'à la cheville. Il vit André endormi dans son lit. Marguerite assoupie dans le fauteuil, et, cherchant l'enfant près de la mère, il ne le vit point. Il comprit aussitôt, se dirigea vers la porte du perron, l'ouvrit non sans bruit, un bruit qui l'épouvanta, et pénétrant jusqu'au lit qui avait été le lit de Nicole, il posa à tâtons ses doigts glacés sur le visage du pauvre enfant, à qui la douleur arracha les cris entendus par André. Puis, roulant le nouveau-né dans une couverture de laine, il l'emporta, laissant la porte entrebâillée pour ne pas redoubler le bruit si dangereux. Une minute après, il avait gagné la rue par le jardin, il courait à la rencontre de son cabriolet, enchassait le postillon qui s'était endormi sous la capote, et, fermant le rideau de cuir, tandis que l'homme remontait à cheval, « Un demi-louis pour toi, dit-il, si dans un quart d'heure nous avons franchi la barrière. » Les chevaux, ferrés à glace, partirent au galop.